Vous écoutez
RMC.
Jeudi 13 août,
l'info sur RMC.
RMC 8h01, pardon pour le retard, le journal d'Anne-Sophie Balbir. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Atlético de Madrid ou Leipzig, l'une de ces deux équipes affrontera le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Paris s'est qualifié in extremis face à l'Atalanta Bergame. But de Marquinhos, but de Choupo-Moting et bonheur des supporters. Victoire finale 2-1. Le coronavirus nous colle toujours au basque. Progression du nombre de cas inédite depuis mai. Le port du masque obligatoire s'étend encore un peu plus, les contrôles vont être renforcés. Et puis le chômage en baisse en France, moins 0,7 points au deuxième trimestre selon l'INSEE. Une tendance en trompe-l'œil à cause du confinement. RMC 8h01. Vous l'avez vécu en direct hier soir sur RMC.
C'est terminé, c'est fini, qualification à l'arraché dans les dernières secondes du Paris Saint-Germain.
Et oui, ça y est, ils y sont, 25 ans après les Parisiens qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une victoire 2-1 face à l'Atalanta Bergame, but de Marquinhos, but de Choupo-Moting dans le temps additionnel. Une remontada express, le sursaut en toute fin de match. La malédiction est brisée, les supporters délivrés, Mao Becker-Granier, Valentin Jamin.
Mené 1-0 jusqu'à la 90e minute, les supporters parisiens se sont mordus les doigts, stressés, presque dépités, jusqu'à ce que Marquinhos puis Choupo-Moting les délivrent. La malédiction des quarts de finale vaincue et beaucoup, beaucoup de soulagement pour Alex, Anthony et Raphaël.
Toujours y croire jusqu'à la fin. Chaque année, normalement, c'est nous à la place d'Atalanta. Là, c'est le contraire, c'est magnifique. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux.
Un seul mot incroyable.
Une victoire dans la douleur qui va renforcer le collectif, espère Jérémy, supporter inconditionnel des Parisiens.
Je pense que les mecs dans le groupe, ouais, ils ont la tête, ils sont plus forts, ils ont un groupe solide. Ça va les soulever en tout cas.
Après tant d'échecs aux portes du dernier carré, Cédric en attend encore plus de son équipe de cœur.
Tant qu'on n'aura pas gagné, ce ne sera pas historique. On a avec les remontadas et autres, les déceptions, il n'y aura pas encore l'extase qu'il peut y avoir avec cette équipe. Il faut gagner avec des champions, c'est tout.
Pétards, fumigènes, cris de joie, des scènes de bonheur qui rappellent la Coupe du Monde et que Tom, tout juste 10 ans, savoure.
Ça me fait du bien de voir du monde heureux, ça, parce que les gens en ce moment ils sont pas très heureux et là je vois tout le monde qui crie de joie et ça me fait plaisir.
Tom et les Parisiens ont rendez-vous mardi prochain pour aller chercher cette fois une place en finale.
Et oui, J-5 avant la demi-finale et on rejoint à Lisbonne Jean Rességuier. Jean, c'est ce soir qu'on connaîtra l'adversaire du PSG pour mardi.
Oui, soit les Allemands de Leipzig, soit les Espagnols de l'Atlético Madrid. Ce sera au stade Alvalade, l'autre stade de Lisbonne qui accueille la finale à 8 de cette Ligue des Champions. Deux formations qui ont terminé leur championnat respectif à la 3e place, derrière Dortmund et le Bayern Munich, derrière Barcelone et le Real Madrid pour l'Atlético. Des Parisiens qui attendent cette demi-finale tranquillement. Ils auront 5 jours pour récupérer. On sera attentif, bien évidemment, au possible retour ou pas de Marco Verratti à l'entraînement. Des nouvelles du gardien Navas, touché aux ischio-jambiers hier soir. Des nouvelles aussi du capitaine Thiago Silva qui s'est plaint de la cuisse droite. Cette qualification a laissé des traces physiquement, c'est une certitude, mais elle a aussi renforcé l'état d'esprit des joueurs du Paris Saint-Germain.
Jean Rességuier à Lisbonne, Atlético de Madrid face à Leipzig, à suivre dès 21h donc ce soir sur RMC et RMC Sport 1. Plus de 2500 cas de Covid enregistrés en 24 heures. Progression inédite depuis le mois de mai, selon le bilan de la Direction Générale de la Santé. Les indicateurs se dégradent, même si le nombre de patients en réanimation reste à peu près stable. Le port du masque à l'extérieur s'étend à de plus en plus de villes. Dès samedi, dans le centre de Bordeaux, à Nantes, demain, à Rouen, aujourd'hui, dans certains secteurs. Et à Lyon aussi, bientôt. Les contrôles devraient se renforcer. C'est déjà le cas dans les transports en commun. Reportage à Vaux-en-Velin, Eloïsa Patricio.
Sur le quai, les contrôleurs habituels vérifient les titres de transport et les policiers, eux, veillent à ce que chaque utilisateur porte le masque. Si cette règle n'est pas respectée, c'est 135 euros d'amende. Ce jeune homme n'a ni ticket ni masque. Il devra donc payer deux contraventions.
Je vais vous demander de porter votre masque.
Ah, je sais, mais j'en ai pas, je trouve ça.
Vous n'en avez pas ?
Un masque lui est alors fourni.
Vous l'avez mis dans le bon sens ?
Car pour attendre le tramway, même à l'extérieur, il est obligatoire, rappelle Jocelyne Massoko, commandant divisionnaire.
Le quai de métro, une gare ou un espace dédié à la
d'attente sont assimilés à des emprises. C'est simplement pour pallier le non-respect de la distance physique.
Les agents font essentiellement de la pédagogie. La grande majorité des utilisateurs respectent le décret.
Pour beaucoup, il fait chaud, c'est contraignant. La plupart a le masque dans le sac ou dans la poche.
La distanciation sociale est compliquée à respecter dans les transports, alors les usagers sont plutôt favorables au masque obligatoire.
C'est plus sécurisant pour les autres.
Là, il fait chaud, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça va, on s'habitue.
En moins d'une heure, à la sortie du tramway, les policiers lyonnais ont dressé 2 amendes pour non-respect du port du masque.
Elle s'est vue prescrire 5 jours d'incapacité totale de travail. Une infirmière frappée dans un bus de Seine-Saint-Denis, rouée de coups par 3 adolescents à qui elle venait de demander de mettre un masque. 2 jeunes sont en garde à vue. Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, une idée circule en ce moment à Paris, celle du traçage des clients dans les bars et les restaurants. Principe de la mesure, donner son nom et son adresse avant de s'installer pour pouvoir prévenir ceux qui ont été en contact avec un malade. Ça passe très mal du côté des professionnels du secteur. Arnaud Lafargue est directeur de la branche café-brasserie de l'UMI des Bouches-du-Rhône.
C'est quoi la cohésion des choses? Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Vous êtes chez nous, vous rentrez, on vous fait faire une fiche, vous sortez, vous prenez le bus sur le trottoir et personne ne vous fait faire de fiche. Et s'il faut remplir une fiche pour boire un café, ça ne peut pas quand même pas être très très simple. Parce qu'après, il faut avoir la collaboration de nos clients. C'est eux finalement les décideurs. Nous, on leur propose, mais si le gars ne veut pas remplir, qu'est-ce qu'on lui dit? Monsieur, partez, quittez le lieu. On ne peut pas se permettre d'être sectaire sur certains comportements.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'annonce dans une interview à Sud-Ouest ce matin. Le plan de relance spécial Covid comprendra 3 milliards d'euros pour les PME. On aura le détail le 25 août prochain. C'est dans ce contexte qu'on a les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre. Taux en baisse de 0,7 points à 7,1%. Une baisse en trompe-l'œil selon l'INSEE. À cause du confinement, beaucoup de personnes n'ont pas pu chercher d'emploi. Le volume horaire de travail a reculé de 18% sur un an au deuxième trimestre. RMC 8h08, Emmanuel Macron juge la situation très préoccupante à l'étranger, en Biélorussie, troisième jour d'une contestation post-électorale particulièrement violente. Benjamin Pelsi.
Des manifestants pacifiques violemment réprimés par la police, des femmes vêtues de blanc défilant dans la capitale Minsk pour dire stop aux violences. Jamais un mouvement de contestation n'avait pris une telle ampleur dans le pays. Depuis 3 jours, la Biélorussie est en proie à de fortes tensions. Dimanche, Alexandre Loukachenko, surnommé le dernier dictateur d'Europe, a été réélu avec 80% des voix. Un scrutin marqué par de fortes irrégularités et l'absence d'observateurs internationaux. Son opposante, Svetlana Tikhanovskaya, s'est réfugiée en Lituanie après avoir subi des pressions du pouvoir en place. La répression policière a fait 2 morts et plusieurs centaines de blessés. 6000 personnes ont été interpellées. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent se réunir demain à Bruxelles pour discuter de la mise en place de sanctions contre la Biélorussie.
Au Liban, le parquet doit interroger à partir de demain des ministres et anciens ministres sur les tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans le port de Beyrouth. Aujourd'hui, la ministre française des Armées est sur place, Florence Parly, qui doit accueillir le porte-hélicoptère Tonnerre avec à son bord une centaine de tonnes d'aide à la population. Et puis, il reste 21 départements en vigilance orange. Canicule des Ardennes à l'Isère en passant par la Haute-Saône. Dernier jour de grosse chaleur avec la sécheresse toujours qui ravage les terres. C'est la même musique maintenant depuis quelques années. Cet éleveur laitier de Nangy en Seine-et-Marne en témoigne. C'est un reportage signé Florian Chevalet.
C'est l'heure de la traite pour Jean-Claude Pet et sa salariée.
Bon, ça va, ils ont moins chaud là? Pas vraiment.
L'éleveur est inquiet, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie depuis la mi-juin. Conséquence, il n'y a plus d'herbe dans les prés pour nourrir ses vaches laitières.
Magique, dépêche-toi! C'est uniquement l'alimentation qu'on leur apporte qui va les nourrir. Et donc, elles consomment en ce moment tout ce qu'on a récolté soit l'an dernier, soit cette année pour l'hiver prochain.
Une alimentation hivernale consommée en plein été, l'éleveur devra donc acheter du fourrage à l'extérieur au risque de faire face à des prix qui s'envolent.
Arrive un moment où si véritablement le prix devient trop élevé par rapport à l'intérêt qu'on a à le donner à nos animaux, on va arrêter de nourrir nos animaux avec des bons aliments, puis on va leur donner à manger de la paille. Hein, là. Ça fait pas produire du lait, mais ça nourrit les animaux, ça les empêche de mourir de faim. J'ose espérer qu'on n'en arrivera pas là.
Alors pour empêcher une flambée des prix du fourrage, Pierre Thomas, président du MODEF, syndicat agricole, demande à l'État de plafonner les prix.
La loi de l'offre et de la demande, elle est là. Les cours flambent. Les agriculteurs sont en train de se ruiner pour continuer de nourrir leurs animaux.
Aujourd'hui, le prix d'une tonne de paille peut dépasser les 100 euros, ce qui n'a jamais existé selon le syndicat.
Le reportage de Florian Chevalet.
Dans le journal d'Anne-Sophie Balbir. Merci